Merci à BBC Afrique pour cette page d'information suite de nos échanges avec les finalistes de la 3e édition de The Voice Afrique francophone et pas seulement.
Africa. La maraboutique de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Brazza.
C'était le 1er mai dernier au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la finale de la 3e édition de The Voice Afrique francophone livrait son verdict en couronnant l'artiste burkinabé Lady Shine. Avec elle, on a pu voir briller sur scène, sous le regard bienveillant des coachs que sont Lokua Kanza, Charlotte Dipanda, Youssoupha et Hiro, trois autres artistes aspirant à une longue carrière. Leurs noms, Fogon Atsu du Togo, qu'on a entendu tout à l'heure, mais aussi Karina Sen et Giovanni Ruesu, un Béninois qui a posé ses valises aux États-Unis et dont l'interprétation du John Maya de Victor Démé a provoqué l'émotion générale. Une spéciale dans la case du doyen Manou dans cette maraboutique, une spéciale consacrée à la 3e édition de The Voice Afrique francophone. Et heureux sommes-nous d'avoir eu les 4 finalistes. Nous avons échangé avec quelques-uns d'entre eux hors de la scène. Pour avoir été dans la salle, j'ai été comme beaucoup littéralement scotché par la voix, le charisme et la présence de quelqu'un que je surnomme désormais Don Giovanni. Giovanni, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ben ma foi, ça va bien et heureux de te voir en vrai. J'ai ce privilège, c'est aussi ça de faire de la radio. C'est une histoire quand même exceptionnelle et extraordinaire. Giovanni se retrouvant en terre abidjanaise, portant le flambeau d'une candidature pour la 3e édition de The Voice Afrique francophone, alors que lui-même est basé du côté du pays de l'oncle Sam. Raconte-nous un petit peu tout ça.
J'avais vraiment l'envie de représenter le Bénin à cette compétition et ne pas profiter du fait que je sois ailleurs pour me cacher sous d'autres projecteurs. J'avais vraiment besoin de représenter le Bénin. C'était très important pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire en Afrique et pas ailleurs. C'était très, très important.
Parce que pour rappel, The Voice est une émission qui s'exporte partout dans le monde entier, avec des jurés aussi célèbres que Lokua Kanza, Kiro, que Charlotte Dipanda ou encore que Youssoupha. Et là, cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'a justement apporté sur le plan artistique, mais sur aussi sur le plan personnel, de revenir et d'être face à un public continental?
Déjà, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais faire et que je ne poussais pas certaines limites. Et mon coach, elle m'a tout le temps donné des challenges. Quand moi, je choisissais un morceau pour moi qui était dans mes cordes, tout de suite, elle revenait à la dernière minute pour me proposer quelque chose de complètement différent et qui allait m'obliger à repousser les limites jusqu'au bout. Donc j'ai appris à travailler, mais très, très, très rapidement, à ne pas me laisser avoir par la pression et donner le maximum. Mais il faut rappeler que sur The Voice, c'est pas la même structure que sur un concert. On a 3 minutes ou 2 minutes où il faut être efficace. Il n'y a pas de temps de préparation. On va sur scène, on donne le meilleur et puis on passe à autre chose. Donc ça m'a appris à être là, sur le moment présent, à tout donner. Voilà.
Le moment présent avec une concentration de ce que moi j'ai aussi appelé l'instant en termes de prestations vocales, mais aussi scéniques. On a parlé de la direction artistique de Prudence Maïdou, mais également tout l'héritage que toi tu tiens de toutes ces influences musical, et pas simplement en termes de chanteur, mais en tant que entertainer. Exact. Quand tu es arrivé dans cette veste lumineuse, brillante, que tu t'es approprié le morceau de Victor Démé, on aurait pu avoir un héritage qui est aussi bien celui d'un Louga, mais aussi bien celui d'un Al Oliver, que celui d'un James Brown, ou encore que celui d'autres personnalités de la scène noire américaine, et qui donne tout en mode soul, comme Otis Redding. Quels sont, toi, tes influences, ceux qui constituent ton panthéon artistique?
Ben, chose très étrange, c'est toutes les personnes que tu viens de citer. En général, Otis Redding, toute l'époque Motown. Mon chanteur préféré, moi, c'est Donny Hathaway. J'aime beaucoup ce qu'il fait musicalement. Et puis, j'ai vraiment appris la musique en écoutant ces gens-là. Donc, sans vraiment le vouloir, il y a beaucoup de mimétisme. Et après, j'ai développé la personne que je suis, avec mon caractère, ce que je sais faire. Mais j'ai toujours vu, dans les images, c'est toujours... La soul music, c'est vraiment, comme on dit, c'est la musique de l'âme. Il faut vraiment partager, donner des émotions. Donc, je suis parti de là, voilà.
En 2021, ne sont pas tous les artistes qui n'ont pas encore une dizaine d'albums sur le marché, qui évoquent Donny Hathaway ou alors Bobby Taylor, ou des gens comme ça qui portaient littéralement le chant de l'âme. Il y a presque, quand tu chantes, une urgence dans le sens où tu donnes sur chaque morceau, et c'est la même chose que veulent produire tous les artistes, mais tous n'y parviennent pas, l'urgence d'apporter et de te livrer littéralement, même dans cette approche par rapport au public. Est-ce que c'est une chose, Giovanni, que l'on répète? Est-ce que c'est une chose que l'on a en soi et finalement on la vit et on le produit sur l'instant? Comment ça se passe dans ton cas?
Waouh, très belle question. Dans mon cas, c'est jamais répété. D'ailleurs, chaque fois on répète, on me fait vas-y, vas-y maintenant. C'est très mental chez moi. Il y a un moment où je passe mentalement d'un état à un autre. Et souvent, ce que j'ai appris en chantant, c'est qu'il faut savoir raconter les histoires. Et ça, c'est la partie la plus importante pour moi. Donc, quand je suis sur scène, c'est très important que le public en face de moi, même s'ils ne comprennent pas la langue, comprennent l'émotion que j'essaye de retranscrire. C'est pour ça, souvent, c'est un autre personnage. Je ne crée pas forcément un personnage, mais je tiens à raconter l'histoire telle qu'elle est, quitte à prendre des allures d'acteur, mais je dois vivre vraiment l'histoire et pouvoir la retransmettre aux gens qui me regardent ou aux gens qui m'écoutent d'ailleurs. C'est très important ça.
Et ce côté storytelling que toi tu as, dont on parle beaucoup au niveau de la scène américaine, il est aussi très présent sur le continent. Le storytelling, c'est ce que l'on livre de soi avec des moments plus personnels, avec un hommage à ton papa. Il faut tous ces ingrédients pour livrer une performance, je ne vais pas dire authentique, ce n'est pas le terme, mais vrai, qui est comme celle que l'on est.
Exactement. C'est souvent le secret, hein. Il faut aller puiser dans ses propres histoires, dans son vécu, pour pouvoir redire l'histoire. C'est, c'est presque impossible, voire impossible, de mentir au public. Si l'histoire n'est pas vraie, ils le ressentent tout de suite. Donc je m'attelle à ça, à vraiment raconter l'histoire telle qu'elle est. C'est pour ça, je ne me compare pas à certains artistes, mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire parce que ce n'est pas dans ma nature et je n'ai pas envie de tromper les gens. Voilà.
S'il y a bien une chose que tu sais faire, Giovanni, c'est encore chanter. C'est un chant qui est vraiment puissant et tu as atteint des sommets au moment où tu chantais ce morceau de Victor Desmets. Qu'est-ce qui nous attend dans l'opus à venir et dont tu as très certainement une nouvelle idée? Moi, je n'aime pas parler en termes de 2 minutes 45, de 5 minutes 10, du featuring avec le chanteur à la mode. Mais qu'est-ce que tu en attends toi-même de cet album en termes de couleurs, en termes d'univers?
En termes de couleurs et d'univers, forcément, il y aura beaucoup de musique soul, mais il y aura beaucoup de mélanges parce que aussi, c'est ce que j'aime. J'ai horreur de la monotonie, donc j'aime rapporter des choses, faire des mélanges, mais toujours garder ma couleur et ma touche vocale. Je veux copier personne, j'ai ma touche. Et dans beaucoup de choses que je fais, c'est utiliser de la néo-soul, par exemple, mais le chanter dans des langues de mon pays, par exemple, et apporter ce genre de métissage dans la musique, c'est très important pour moi. Donc, quand je vais proposer de la musique, ça va être très, très métissé, mais il y aura toujours cette base, cette fondation qui est soul. C'est très important. Ouais.
Josephine Baker disait « J'ai deux amours, mon pays et Paris ». Dans ton cas, toi qui vis plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, comment ça va se passer, j'ai envie de dire désormais? Est-ce que cette aventure de The Voice francophone a ouvert d'autres champs, d'autres perspectives, déjà dans ton cheminement personnel et dans cette décision qu'ont eu à prendre des gens comme Angélique Kidjo, Lionel Loueke, Richard Bonnat, ou même Papa Manu Dibango à une époque, de se dire « Bon, finalement, je vais où? Je fais quoi? Je pose mes valises où ?»
La question se pose déjà parce que je peux ouvrir donner le secret. J'ai eu quelques appels qui s'avèrent, qui me semblent très intéressants. J'ai l'impression que Abidjan risque d'être là où je vais déposer mes valises, ou Paris, on verra bien. Mais je sens que je vais effectivement devoir prendre une décision très rapidement pour ne pas louper certaines opportunités. Voilà.
Mais en tout cas, tu as beaucoup de sérénité et beaucoup de talent. Et nous, ce qu'on te souhaite, c'est vraiment une très belle route en mode musique. Et pourquoi pas plus? Parce que des artistes comme toi peuvent être aussi des touche-à-tout. Et je pense que the sky's the limit, comme on dirait, là où tu avais posé tes valises, un temps. Merci, Giovanni.
C'est moi. Merci beaucoup.
Lolo va va, Lolo va va, Lolo va va, Lolo va va. Susana, je me demande où il y a pour bien Lolo. Take my eyes off you. Your smile is just the reason why I got a happy soul to see. Susanna, I always thought that I could never love again, and you came and take the pain and all the torments away. Ben jibe mande lo lo lo, jibe mande lo lo lo, lo lo va va, lo lo va va. Lolo va va, Susanna, Jibema. un dernier coup au bien entendu. Susanna, can I dance with you? Can I sing your name? Can I change your grace? Can I touch your face as a blind man do? Can I feel your flame? Can I dance with you? Can I sing your name? Can I change your grace? Can I touch your face like a blind man do? Can I feel your flame? Susanna, would you be my dear Lord? Would you be my dear Lord? O de capo elo e Ndibe made o lo 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 Ndibe made o lo 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 O de capo elo lo lo va va lo lo va va
Susana
lo lo va va lo lo va va
Ndibe made o lo 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 Ndibe made o lo 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 O de capo elo Ndibe made o lo
Africa Radio dans la case du Doyen Manu Dibango et dans cette maraboutique, une édition assez intéressante et bourrée de talent pour The Voice Afrique francophone, avec des protagonistes en parlant des quatre finalistes et en parlant d'aventure musicale aussi, car certains n'ont pas attendu l'aventure de The Voice pour pouvoir s'affirmer. Quand on va dire à certaines personnes, aux Anzambé, toute une vie, en parlant d'un album, certains vont lever les yeux en disant « c'est Karina Sen !» Et c'est bien elle qui est avec moi ce dimanche. Bonjour Karina.
Bonjour Braza.
C'est un bonheur en fait de te voir et d'échanger avec toi, parce que comme beaucoup de gens, je t'ai d'abord vu à l'image, à la télévision. Et quand j'ai vu justement ta présence au sein de cette édition de The Voice, je me suis dit, il faut beaucoup d'humilité pour une artiste qui a déjà à son répertoire des opus, de revenir et finalement d'embrasser la lumière à travers ce tour de chant, comme on dit. Qu'est-ce qui a motivé justement ta présence à faire partie de l'aventure?
Je vais vous choquer en vous disant que rien n'était prémédité. En fait, je ne voulais même pas participer à The Voice. J'ai été convaincue par une artiste qui faisait partie également du jury de The Voice Bénin. Elle m'a convaincue de pouvoir participer à The Voice. Et je crois que c'était une très bonne raison pour pouvoir participer. Donc, c'est comme ça. Et en parlant d'humilité, je crois que les plus grands artistes qui ont perduré dans le temps et même après, ce sont des personnes qui ont été très humbles. Je crois que c'est la première qualité d'un artiste, cultiver l'humilité. Et ça lui permet en même temps de passer dans tous les domaines, dans tous les secteurs et de ravir le cœur de tout le monde.
Ravir le cœur de tout le monde, parce que finalement, pour Karina Sen, le chant, c'est d'abord un partage. Ce goût du chant et, j'allais dire, sa source, elle vient d'où? Pour ceux qui, justement, ne sont pas du côté de Dantokpa, d'Akpakpa ou d'ailleurs, ça te vient d'où, finalement? Parce qu'il y a toujours un début à ces belles histoires.
Tout à fait. Moi, personnellement, mes inspirations me viennent de Dieu, du Saint-Esprit, parce que je suis artiste gospel à la base. Donc, du coup, je puise beaucoup plus mes inspirations de la parole de Dieu, de mes expériences que j'ai vécues, de mes chutes comme de mes élévations, de plein de choses de la vie, mais qui tournent essentiellement autour de la base de la personne que je suis, c'est-à-dire Christ. Voilà.
Et c'est bien parce que quand tu parles de Christ, et on est justement dans notre case dominicale, dans la maraboutique un dimanche, il y a toujours cette dichotomie qu'on veut faire quand on est exclusivement chantre, qu'on ne doit pas se produire dans un cadre qui ne serait pas un cadre béni parce que toutes les lumières d'un côté showbiz. Toi, tout au long finalement de cette carrière que tu mènes, il n'y a jamais eu ce questionnement parce que finalement, chanter pour toi est naturel et cette spiritualité est naturelle.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été qui ont été prises en considération dans le temps, comme les artistes gospel ne doivent pas, entre guillemets, se mélanger aux autres artistes parce qu'ils sont consacrés. C'est vrai que ça, c'est un très gros débat, un débat même qui me dépasse. Mais ce que je pense qu'il faut retenir, c'est que les choses sont en train d'évoluer. Et aujourd'hui, le chrétien a besoin d'aller dans le monde, d'aller partout et de convaincre. Alors comment irons-nous dans le monde si nous ne pouvons pas justement essayer d'aller vers ce monde-là, grandir, évoluer et essayer de faire connaître nos convictions? On ne peut pas y arriver si on ne va pas vers les autres. Donc je pense qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont en train d'être faites et il faut avoir, comment on dit en anglais, open-minded, être ouvert d'esprit pour pouvoir conquérir le monde également. Donc je pense qu'aujourd'hui beaucoup de choses changent et c'est important. C'est important qu'on aille vers les autres.
L'ouverture d'esprit, l'ouverture vers les autres, le fait, j'allais dire, de conjuguer aussi ce public avec ta carrière et ta feuille de route, ça veut dire dans un pays comme le Bénin, être tout de suite très accessible. Il y a une chose qui est très touchante quand on va sur ta page ou sur les réseaux sociaux, depuis aussi cet accueil aussi formidable par rapport aux Anzambé qui m'a touché en tant que Congolais, c'est le fait de se dire que au Bénin, et c'est une particularité, ces musiques ne sont pas mises dans des cases différentes. J'ai été ravi d'être depuis le début de l'aventure Gospel et Racines, où nous étions là et où nous allions, et j'avais déjà ce questionnement à l'époque de me dire, finalement, ce Bénin, il a ça de particulier, comment ça se fait que cet aspect variété touche justement des aspects gospelisants ou autres? Tu penses que finalement, il y a une singularité avec le Bénin, de finalement ce rapport avec la musique, avec le chant, comme dans aucun autre pays, peut-être ailleurs?
Déjà, je tiens à préciser une chose particulièrement en ce qui me concerne. Je ne suis pas que béninoise, mais je suis bénino-camerounaise. Donc du coup, j'ai mes racines de l'Afrique centrale qui me rapprochent beaucoup du Congo aussi parce que mon tuteur était congolais. Et il y a de cela environ 15 ans, je suis arrivée au Bénin. La musique béninoise, ou bien du moins la musique au Bénin, a beaucoup évolué au fil des années. Entre 2005 et 2021 aujourd'hui, la musique béninoise ou la musique du Bénin a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, les Béninois ont tendance à aller chercher ailleurs aussi pour pouvoir ramener et à essayer de faire un brassage. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire un métissage. Le métissage apporte du bon, que ce soit au niveau de la langue, au niveau du style musical, à plusieurs niveaux. Et là, je ne parle même pas encore des thématiques comme le gospel et la musique profane, la musique war music, la R&B et tout ça. Donc, je pense que le Bénin n'a pas fini de surprendre. Déjà, le Bénin a commencé à surprendre avec du côté du football et maintenant du côté de la musique. Je pense qu'on est bien parti en tout cas pour intégrer toutes les sphères d'influence. Et voilà, donc je pense qu'on n'a pas fini de surprendre. On n'a pas fini de surprendre. Moi particulièrement, ce côté a beaucoup prisé la musique congolaise et d'autres musiques, même la musique Yoruba. Je ne suis pas Yoruba, mais la musique Yoruba, la musique Igbo, comme auditions à l'aveugle avec ma version Ekou Aimé. Donc j'affectionne beaucoup les langues dans la musique. Il y a des langues qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc du coup je fais beaucoup de recherches dans ce domaine et j'essaie de m'approprier cela parce que c'est aussi un moyen de pouvoir toucher les communautés et de pouvoir faire passer mon message qui est le gospel. Voilà.
En tout cas, quand on dit push him up, on peut l'écouter à Harlem, quand on peut l'écouter du côté de Kinshasa ou partout. J'irai après une expérience comme celle-ci, intense, parce que c'est très concentré. On en a parlé avec justement d'autres participants à l'aventure The Voice. Il faut tout donner dans un laps de temps très court avec cette sélection, parce que c'est un concours de chant. Alors que toi, tu aimes aussi prendre ton temps pour poser et travailler sur les nouveaux projets. En sortant de là, finalement, est-ce que quelque chose va changer dans ta manière d'aborder cette carrière ou alors d'appréhender ou d'aborder la scène et tes projets futurs?
Totalement, totalement. The Voice n'a pas seulement été un tremplin pour nous de nous exposer, mais également un échange de connaissances, d'expériences avec nos coachs, avec le public, parce que The Voice, le concept The Voice, c'était un concept tellement grand. J'ai, par exemple, sur la scène, la gestion, par exemple, du micro, les oreillettes, tout ça, c'est des choses assez sophistiquées que si on n'a pas l'habitude des scéniques basiques, quand on se retrouve devant de pareilles choses, on peut être impressionné et ne pas être à la hauteur. Donc, du coup, je crois que j'ai beaucoup appris côté scénique, côté organisationnel, et je pense que ça va changer beaucoup de choses dans ma manière de rendre, surtout en musique live. Parce qu'aujourd'hui, l'artiste vit de la musique live. Et totalement, je crois que ça va apporter un grand tournant à ma carrière et à, quitte à moi de savoir comment gérer cela et d'exploiter tout ce qui viendra à moi. Voilà.
Écoute, nous, on te souhaite le meilleur. On te souhaite en tout cas une très, très belle route et longue. Et comme j'ai souvent coutume de le dire, Dieu veille, parce que la spiritualité est toujours très présente. Peut-être un message à celles et ceux qui t'écoutent, qui sont quelque part dans leur chambre et qui se disent, ah, peut-être cette envie de chanter, d'aller de l'avant et qui sont parfois dans le doute. Qu'est-ce que tu leur dirais ?
Je leur dirais tout simplement de continuer. Je dirais tout simplement à toutes ces personnes qui m'apprécient et qui apprécient également la musique en général, de ne pas lâcher. Parce que la musique, c'est un secteur qui aspire beaucoup, qui demande énormément, qui est très possessif, égoïste. Mais quand on a la tête sur les épaules et on est objectif, on peut arriver à faire énormément de choses et à toucher un grand monde de gens et influencer. Donc, d'être, de continuer, mais de rester lucide. C'est très important. Et d'avoir un plan. Les gens qui font les affaires appellent ça business plan. D'avoir un plan, d'avoir une orientation, d'avoir une vision et de toujours s'accrocher à cette vision. Et voilà, je pense que tout ira bien.
Nassom Djita, Nassom Akpe, thank you, Karina Sen, merci.
Gracias.
Looking out on the morning rain, I used to feel sun is fire. And when I knew I gotta face another day, Lord, it makes me feel so tired. For the day I met you, so unkind, Lord, the key to my peace of mind. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in a lost and found, yeah, you came along to save me. I didn't know what was wrong with me, oh, till your kiss helped me live it. Hey, I am no more doubtful of what I'm living for. If I do make you happy, I don't need to do. Feel so good inside.
Une maraboutique dominicale dans la case du doyen Manu Dibango sur Africa Radio depuis les bords de la lagune Ébriée où s'est tenue cette troisième édition de The Voice Afrique francophone avec l'éclat, avec la maestria et surtout le triomphe, on l'a bien vu, de Lady Shine. Retour sur cette édition avec l'instigatrice de ce qui est un rêve fou, un pari fou et que je suis très heureux de retrouver au micro d'Africa Radio ce dimanche. Rolande, bonjour.
Bonjour Robert, bonjour. Bonsoir.
Oui, le jour. À quel moment, quel jour est-on? Quel jour est-on, à quel endroit? Non, je te dis, en tout cas, un bravo, parce que finalement, c'est jamais évident de porter un tel projet. Et je rappelle quand même qu'on en est à la troisième édition. On dit toujours, les choses se bonifient avec le temps, comme le bon vin. Mais j'ai l'impression que dans ton idée, c'est toujours un défi permanent et que chaque édition est finalement la première.
En effet, et cette troisième saison particulièrement est comme une première, parce que si vous regardez l'historique des grandes productions africaines, la plupart s'arrêtent à la deuxième saison. Donc nous, on avait ce défi de se dire qu'on devait terminer, on devait la faire et terminer la troisième saison pour briser comme un joug qui pesait sur les grandes productions d'Afrique francophone. Donc pour nous, c'est une première parce que ça l'est réellement et on voulait la terminer. Et comme je dis, on a fait le travail et puis Dieu a fait le reste.
Cette spiritualité ambiante peut servir, mais il y a aussi un savoir-faire qui est terrestre, avec une scénographie, on l'a évoqué tout à l'heure avec Prudence Maïdou, avec une ambition au niveau du stage et cette idée des escaliers dont tu m'as parlé hors micro. Et puis aussi dans la formule, c'est-à-dire un jury pluriel, éclectique, Lokwa Kanza, Charlotte Dipanda, Hiro, Youssoufa, et des candidats qui finalement aussi sont pour beaucoup des candidats accomplis, et avec l'idée que le public doit toujours être présent et l'interaction d'un vote public qui finalement certifie le gagnant. Ça aussi, c'est une idée de respecter le concept de The Voice tel qu'il se fait partout dans le monde. Et j'allais dire de faire les choses de manière très carrée et de manière très professionnelle, parce qu'on a souvent l'impression qu'en Afrique, on se lance un peu comme ça dans le vide. C'est des choses, Rolande, auxquelles toi tu tiens, que le concept soit respecté, avec cette touche africaine en plus, mais que The Voice reste The Voice.
Je ne suis pas la seule à le tenir. Vous savez, quand j'ai eu les droits de... Nous avons obtenu les droits de la licence de The Voice en Afrique francophone. Nous aussi, on avait peur. On se disait, The Voice, c'est 70 versions dans le monde. Et nous, on récupère la version africaine. On ne voulait pas être la seule version qui va dévoyer le concept parce que les Africains regardent The Voice France. En tout cas, les Africains d'Afrique francophone. Donc, du coup, on avait aussi ce challenge-là. Mais en réalité, on ne peut pas... On doit continuer... Ce n'est pas parce qu'on est Africain qu'on doit... penser à bricoler, excusez-moi le terme. Donc nous, l'idée de se dire, nous, on a tous un peu étudié en diaspora, on a tous un peu les compétences et le talent, je dirais, de n'importe qui. Et donc notre défi, c'est de se dire, réunir dans cette production, moi, comme je l'ai dit durant la finale, c'est une production panafricaine. J'ai un ensemble d'Africains, je dis tout le monde est un peu patron, j'ai réuni des talents qui ont des entreprises. Ensemble, on s'est tous soumis à la rigueur du projet, parce que l'idée, c'était de se dire d'apporter quelque chose de réellement grandiose pour l'Afrique. Voilà.
L'Afrique, avec une émission et une finale, comme on l'a vu en direct, le live television, comme disent nos amis anglophones, et surtout aux États-Unis, n'est jamais une expérience simple. Il y avait l'idée aussi d'entertainment, plus que de prestation, comme on dit souvent. Le côté entertainment, c'est aussi une chose que toi, en tant que productrice, tu as su insuffler à tes équipes et j'ai l'impression même aux artistes. Pour avoir échangé avec chacun des finalistes, il y avait cette idée de non, on savait qu'on avait quelque chose de lourd au-dessus de nos têtes.
Oui, en fait, aussi comme je reviens sur la question précédente, parce que quand on a pris ce concept, on a dit on voulait lui donner une âme africaine. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été choisie, parce qu'on n'était pas les seuls à vouloir cette licence. Et l'idée, on a défendu en disant que nous, on veut donner une âme africaine. Et si vous avez vu un peu la demi-finale et la finale, vous verrez que cette âme-là était présente. L'âme africaine, c'est la danse, c'est le rythme. Dans d'autres versions, on voyait un peu moins de ça. Donc du coup, le côté vraiment divertissement avec la touche africaine doit faire partie intégrante de notre version. On ne peut pas s'éloigner. Déjà, on est en Côte d'Ivoire. Les talents, les chorégraphes, les danseurs, les stylistes, tous sont des Africains. Donc c'est une plateforme, comme j'ai dit, pour plusieurs, une pléthore de talents africains, et on n'a pas le choix que de garder cette âme africaine. Oui.
Et cette plateforme Abidjan avec une histoire particulière, tu l'as dit sur scène au moment du témoignage, l'Afrique du Sud, oui, l'Afrique du Sud et ses talents et un historique comme au showbiz africain, mais Abidjan, plaque tournante, perle des lagunes, avec la reconnaissance qui a été marquée hier par rapport à fait le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais au-delà de cet hommage que tu as rendu à Ahmed, c'est aussi un ensemble de gens qui font confiance. Est-ce que The Voice, finalement, pour toi, cette aventure de The Voice Afrique francophone, c'est pas aussi une célébration de la synergie africaine?
C'est, ça l'est vraiment, et je pense que la Côte d'Ivoire, plus que tout autre pays, en ce moment, représente, je veux dire, le hub de l'Afrique francophone. Et c'est vraiment pour nous, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous voyez des personnes, des talents de différentes nationalités. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a même plus besoin d'être en Occident. On peut être, on peut être en Côte d'Ivoire. Et se sentir avoir tous les avantages d'ailleurs. Donc du coup, on a la possibilité d'avoir tous ces talents-là dans une même ville qui est Abidjan. Et c'est vraiment une célébration de la culture africaine et de la synergie des talents.
Et à la croisée des chemins, à la croisée des générations, quand Baïs Pinto apparaît sur scène, quand voilà, une jeune étoile comme Kérosène apparaît, puis un André Maritala avec un Sikati impressionnant, là on a les yeux qui pétillent pour soi, mais aussi pour tout le public, avec des jeunes de tous âges qui arrivent et qui reprennent à nommer en cœur. C'est presque aussi peut-être ton rêve secret à toi de te dire « Ah ouais, mais là, c'est ce que j'attendais ».
Le public de cette demi-finale et de la finale était exceptionnel. Franchement, c'est vrai que vous imaginez, mais quand vous le vivez, c'est comme si c'est un peu plus que les attentes. Honnêtement, on est subjugués et je pense que ça rajoute, les artistes sur scène ont plus d'entrain quand vous avez un public aussi enthousiaste, aussi dégourdi que celui qu'on avait durant ces deux émissions. Je vous assure que le show, ça se passe comme un, c'est un plaisir. Tout le monde m'a dit vraiment, Roland, on n'a plus d'autre choix que de rester en Afrique francophone. On est de retour à la maison, on n'ira plus nulle part.
Et il y a un mot qui peut revenir aussi autour de ce concept de The Voice Afrique francophone, c'est ambition, je l'ai dit tout à l'heure. Sortant de la troisième, je ne vais pas te mettre la pression, mais on a toujours l'idée sur l'étape d'après. C'est pour ça que Claudicia, mon grand frère et confrère, a carrément dit non, Robert, tu repasses, mais je te pose la question à toi. Tu as déjà une imagination portée sur la suite, c'est inévitable.
Oui, la prochaine étape, c'est The Voice Kids. Je pense que The Voice Kids, il faut toujours à chaque fois, à chaque moment, rapporter quelque chose de nouveau. Et on n'a pas encore expérimenté les enfants sur cette plateforme. Et quand vous savez ce que l'Afrique peut offrir en termes de talent et en termes de spontanéité, vous imaginez ce que ça va donner avec des petits. Donc j'ai hâte. Honnêtement, la prochaine étape, c'est The Voice Kids. Voilà, d'entre 8 et 13 ans. Je pense, les compétiteurs. Donc, ça va être autre chose, avec les familles, déplacer tous ces... dans quelques mois.
Alors, en même temps, il y a un souffle, mais un énorme sourire.
Non, il y a un souffle. Parce qu'on a fini, Robert, je t'assure, ce qu'on a fait là, pour nous, c'est une double victoire. Je t'ai parlé du Jouk, de finir une troisième saison, mais en plus, de la terminer à la maison. Parce que, là, quand je dis la Côte d'Ivoire, je parle de l'Afrique francophone. Donc, pour nous, c'est une double victoire. Donc, il y a... Après, vous êtes libéré. C'est comme si vous arrivez, vous êtes un attaquant et vous marquez votre premier but, c'est fini. Après, le reste, vous essayez juste. Donc, c'est vraiment, on appelle ça en anglais le breakthrough. Donc, maintenant, on se sent vraiment plus à l'aise. On a le mécanisme. On va plutôt peaufiner, structurer le modèle pour peut-être se déplacer. On va rester en Côte d'Ivoire, mais on envisage déjà d'aller dans d'autres pays. Parce que le modèle est déjà un peu rodé.
La lumière, toujours la lumière, et au moment où on termine justement cette interview avec toi, Roland, il y a Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson qui retentit. Je me dis, c'est peut-être un signe. Don't Stop Till You Get Enough because we'll never stop. C'est ce que hier tu semblais dire au moment où tu étais avec tous ces artistes et tous ceux qui ont participé à la réalisation, au succès de The Voice. Tu as entamé un chant qui, comment dire, rendait gloire à celui qui est tout au-dessus. Avec une fougue d'ailleurs dans laquelle j'étais encore plus découverte en termes de MC, en termes d'Anchor Woman. C'est quelque chose sur le plateau à un moment donné. Il y a la productrice et puis il y a aussi la femme de télévision.
Oui. C'est vrai que je ne j'explore pas beaucoup ça. Mais quand j'étais au lycée, j'étais MC hein, de tous les événements. J'étais la présidente des élèves. Donc j'étais MC, mais dans le monde professionnel, je n'ai pas vraiment eu l'opportunité. Et quand on a des icônes comme toi, on essaie de rester à sa place. Mais de temps en temps, oui, de temps en temps, ça fait plaisir de s'exprimer et de juste partager avec les autres les idées qu'on a et les émotions qu'on ressent. Et voilà. Donc, oui.
Que te souhaiter, sinon, en tout cas, le meilleur. Et encore bravo à toi. Et je rappelle qu'en tout cas, sur la page et les réseaux, c'est toujours actif. The Voice Afrique francophone, ça continue de commenter parce que chacun a son choix du cœur ou de la raison et ça n'en finit pas. Et c'est peut-être ce qui fait aussi la beauté de ce métier, que ce soit de la télé ou du spectacle, c'est que finalement, les avis diffèrent, mais ça crée une richesse.
Oui. Voilà, ça crée une richesse. C'est clair que les choix, le choix du public, la démocratie est compliquée, hein, que ce soit en politique ou dans la vie. Donc du coup, on a envie, on se dit, le modèle de Voice nous impose cette démocratie. Mais c'est vrai que dans le fait d'avoir plusieurs pays en compétition, on pourra peut-être réfléchir à comment s'adapter. Mais pour l'instant, on reste dans un modèle, un canevas qui nous a été donné au moment de l'acquisition de la licence. En tout cas, voilà, on est parti, on verra comment s'adapter au fur et à mesure. Mais on doit respecter les choix du public.
Et nous, on sera toujours à côté pour en faire l'écho, comme le doit Manu Dibango, aurait d'ailleurs toujours voulu que ça se fasse. Une nouvelle scène africaine, des nouveaux talents, depuis le sol d'Afrique. Merci encore à toi et à Claudie, et à tout le monde pour cet hommage magnifique qui lui a été fait. On est ici sur Africa Radio et dans sa maison, et je pense que son étoile doit rayonner quelque part. Merci.
Absolument, absolument. Je n'ai pas connu le grand papa Manu, mais je me dis, si j'ai loupé quelque chose, c'est de ne pas l'avoir rencontré, parce que toutes les personnes qui l'ont connu, qui ont parlé de lui, c'était d'une générosité. Je me dis, même passer 5 ou 10 minutes avec lui, peut-être que j'aurais bénéficié. Vous savez, tout est spirituel. Mais bon, en tout cas, on continuera. Je suis du Cameroun, donc c'est une icône pour nous. Et au travers de nos productions, au travers de tout, on continuera de célébrer cette icône, cette étoile qui nous a quittés.
Pas Manoua Loba, comme tu aimais dire. Merci, Roland.
Merci, Robert. Merci.
Lovely, who we, hey, hey, ooh.
Death Society de Mewé, chantée par Lady Shine, la lauréate burkinabé de la troisième édition donc de The Voice Afrique francophone. Une artiste qui a tapé dans l'œil du jury composé de Lokwa Kanza, de Charlotte Dipanda, de Hiro et de Youssoupha, mais aussi du public qui l'a plébiscité il y a tout juste une semaine lors de la finale de ce show qui jusqu'à aujourd'hui continue de faire débat sur la toile. Mais c'est bien connu, le choix des uns n'est jamais celui des autres, pour reprendre le doyen Manu Dibango, à qui un hommage remarqué a été rendu lors de cette soirée où l'on a vu notamment sur scène le doyen André-Marie Tala, le jeune Kérosène ou encore Toumani Diabaté et son fils Siriki, qui eux aussi se sont fendus d'un très bel hommage au défunt Premier ministre et mécène culturel Ahmed Bakayoko lors de cette soirée présentée par l'ami Diclo, comprenez, Claude Issiard. Voilà pour cette escale dans les coulisses de la troisième édition de The Voice Afrique francophone où l'artiste burkinabé Lady Shine a triomphé. Pour réécouter cette émission, direction le site de la radio africaine, africaradio.com ou l'application. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine, toujours à 10h sur les 107.5 FM. D'ici là, le doyen Manu depuis les étoiles et son Tito ici-bas en studio remercie François Richard en vous souhaitant un bon dimanche et en vous disant...